Le MAC de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio IMO.
Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du MAC de l'IMO. Nous sommes le vendredi 26 novembre 2021, il est 7h passées de 2 minutes et il fait plutôt très froid sur Paris et je suis sûre que ce n'est pas Fabienne Lissac qui m'accompagne ce matin qui dira le contraire. Bonjour Fabienne.
C'est vrai, je suis très contente de vous retrouver. Il y avait Fabrice à la même place et vous voir là en toute splendeur. Je suis très honorée de présenter cette émission avec une championne. Je ne sais pas si tout le monde le sait que vous êtes championne de France dans le sport. Bravo, je rappelle, Johanna, championne de France dans le paradressage. Allez, on s'écarte, je vous laisse reprendre le fil.
Merci Fabienne, en tout cas c'est un plaisir d'être de retour derrière ce micro du MAC de l'IMO. Alors ce matin, on va faire un petit tour, hein, comme c'en est désormais la coutume de l'immobilier immobilière. On verra avec Cédric Julien que l'exode parisien n'est pas un phénomène si massif que cela. En tout cas, en après-Covid, on en a beaucoup parlé. Est-ce réel? On verra ça. On parlera également de la trêve hivernale qui a démarré le 1er novembre et qui s'achèvera au 31 mars 2022. C'est parti, plus de locataires qui pourront être expulsés en tout cas jusqu'en mars. Et puis on reviendra sur le LMNP, le statut de loueur meublé non professionnel qui décidément connaît un très fort engouement. Et ce sera tout ça avant d'accueillir notre grand témoin, Fabienne.
Quel programme, hein ? Alors notre invité, Christian Fabre, directeur général de Keller Williams. Il est connu comme le loup blanc. On m'a dit qu'il est très 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 gentil. Vraiment, j'ai hâte de commencer cette interview avec vous.
Eh ben, on va pouvoir découvrir ça. Christian nous rejoindra un petit peu avant 8h pour son traditionnel accueil. En attendant, c'est parti pour le MAG de l'IMO.
Le MAC de l'IMO, en partenariat avec Opinion Système, promis et bien ici.
Où vaut-il mieux se loger pour payer moins ? Eh bien, il y a une étude de Meilleur Agent qui est édifiante à ce sujet. Elle compare aussi bien Berlin, Madrid ou Saint-Denis. Je ne sais pas, vous, Johanna, quel rêve vous avez ? Où vous voulez aller ? Peut-être vous voulez rester à Paris. Vous parliez d'exode parisien il y a un instant. Une destination qui vous fait rêver ?
Oh, une destination un peu campagne, mais soleil.
L'Allier, oh là là, peut-être. Faut réfléchir.
J'aime bien l'Allier.
On va essayer de vous suivre. Et puis, c'est original, l'Allier. En tout cas, Vincent Favero nous parle de ses belles capitales. Une chronique sur les grands écarts des prix de l'immobilier en Europe. On l'écoute.
Est-il plus intéressant de se loger à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, ou à Berlin, la capitale de l'Allemagne au niveau prix ? D'aucuns diront qu'une capitale est plus chère qu'une ville de banlieue parisienne. Et pourtant, les deux villes sont presque au même prix, 4 331 € du mètre carré à Berlin, 4 293 € du mètre carré à Saint-Denis. Ces chiffres un peu fous sont ceux du site Meilleur Agent que nos confrères du Parisien ont mis en avant en ce milieu du mois de novembre. Les écarts de prix entre les capitales européennes sont assez frappants. Près de 15 000 € du mètre carré à Londres, 10 000 € à Paris, contre 3 340 € à Bruxelles, 2 917 € du mètre carré à Madrid. Moins cher encore, Rome affiche 2 833 € du mètre carré pour la capitale italienne. En cause, les particularités des villes qui ne peuvent cette fois pas souffrir de comparaison. Rome souffre d'une surabondance de touristes, d'une très forte densité et d'un manque d'investissement. Londres bénéficie, à contrario, d'une belle place d'affaires très importante où les résidents doivent s'établir. Madrid souffre de son côté de la dynamique très forte de Barcelone et d'un schéma du pouvoir plus décentralisé qui donne davantage d'autonomie aux régions et rend la capitale de l'Espagne moins attractive. Le jeu des comparaisons pousse les observateurs à placer par exemple Rome à côté d'Angers ou de la Courneuve, où donc l'immobilier coûtera plus cher. Focus quand même sur deux villes où les choses évoluent. Lisbonne affiche 3 660 € le mètre carré, un prix assez raisonnable mais surtout un prix qui a doublé en 5 ans. Stratégiquement, la ville a misé sur une politique fiscale très avantageuse pour une certaine partie de la population étrangère qui en a les moyens. Revers de la médaille, les habitants historiques de Lisbonne ont aujourd'hui du mal à se loger dans la ville portugaise. Autre ville, autre spécificité, Bruxelles en Belgique, une ville unique par sa composition disposition une agrégation de 19 communes sur une surface de 162 km² avec 1,2 million d'habitants, une densité très peu élevée et surtout une ville qui représente 10% de la population de pays, ce qui rend les choses différentes et fait bouger les lignes de l'immobilier quand une personne sur 10 habite la capitale en Belgique. En Europe de l'Ouest, les prix sont donc très disparates et la France est, avec l'Italie, le seul pays où les prix dans la capitale ont baissé en un an.
Le Mac de l'Immo, en partenariat avec Opinion Système, promis et bien ici.
Cet exode parisien, justement, on va en parler puisque Cédric Julien, le cofondateur d'Immobilier sans vis-à-vis, a constaté que cet exode dont tout le monde parle n'est pas si énorme que cela. Les Parisiens, en tout cas, ne partent pas si loin. Une interview avec vous, Fabienne Lissac.
Effectivement. Bonjour, Cédric Julien, vous êtes cofondateur de l'Immobilier sans vis-à-vis. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez fait une analyse sur le phénomène. On a dit qu'avec le Covid, les Parisiens ont quitté la capitale. Est-ce qu'ils sont allés très loin? Bah, finalement, ils vont pas tous à la campagne. Vous pouvez nous raconter?
Tout à fait. Bah, le télétravail a ses limites. Et notamment, nos clients ont besoin de se retrouver plus de la moitié de leur temps au bureau. Et leur bureau est très souvent soit dans Paris, soit proche de la Défense ou en périphérie parisienne. Et le besoin est d'être proche de leur travail, tout simplement.
Alors, ils s'installent où, d'après ce que vous observez?
Alors, proche de Paris, mais notamment proche des transports en commun. Donc, pour nous, nos agences sont situées dans les Hauts-de-Seine, et essentiellement donc dans des villes où le métro, où le tramway, où un train type Transilien ou une gare est proche.
Donc, j'ai cru comprendre que dans les Hauts-de-Seine, ils apprécient. Qu'est-ce qu'ils apprécient là-bas?
Alors, qu'est-ce qu'ils apprécient? Tout d'abord, de nombreuses infrastructures, avec notamment des espaces verts, avec des commodités pour les familles qui sont les plus nombreuses à nous rejoindre. Clairement, dès que un couple a un ou des enfants, Paris n'offre que peu de solutions à la vie familiale, et les Hauts-de-Seine sont vraiment l'évidence, enfin en tout cas proche de nos agences, hein. Oui.
Alors, on comprend que la grande couronne tire son épingle du jeu. Qu'est-ce que ça donne pour ce qui est des prix? Vous avez analysé un petit peu l'évolution?
Alors dans nos zones, on voit une évolution de 5% des prix, de 4 à 5% des prix à l'année, donc depuis 5 ans, sur des villes comme Puteaux, Asnières. On arrive à des montants de plus 20% en 5 ans.
Quel est le critère principal quand on choisit, effectivement, quand on a un projet immobilier? Il y a beaucoup de critères entrent en jeu. Vous-même, qu'est-ce qui ressort?
Alors, nous avons la chance d'avoir un concept qui ressort dans les priorités actuelles, c'est-à-dire un espace vert, enfin en tout cas une vue dégagée déjà, hein, donc avec... ne pas avoir de voisins proches de son séjour. Notamment, notre concept, nous offrons que des biens immobiliers où le voisin est distant de 40 mètres face au salon, plus de 40 mètres. Donc déjà, ça, on offre respect de la lumière et respect de l'intimité. Donc c'est essentiellement ce critère-là qui est choisi. Également, l'espace extérieur, car les confinements successifs et peut-être à venir ont créé un vrai traumatisme. Et l'idée, c'est d'être confiné chez soi, d'accord, mais avec des bonnes conditions de vie. Donc l'espace extérieur et la vue dégagée sont essentiels.
Vous qui vous imprégnez de toutes les infos, les stats, les sondages qui sortent, est-ce qu'un projet immobilier, ce n'est qu'un projet de localisation ou ça impacte la qualité de vie, d'autres choses?
Non, c'est un vrai, comme vous l'avez dit, hein, c'est un vrai projet de vie. En général, quand on achète un bien immobilier, pour que ce soit rentable et viable, il faut y rester au moins 5 ans. Et du coup, ça veut dire rester 5 ans dans un même emplacement. Donc, il faut effectivement des commerces. Il faut des commerces de bouche, des commerces qui permettent, avec aussi des commodités en termes d'infrastructures sportives, associatives. C'est tout un ensemble et tout cela rentre en compte. Alors aussi, la sécurité est aussi primordiale. Donc, des villes où... qui offre un écrin sécuritaire important. Donc tout ça rentre en compte et le projet à 5 ans se fait. Enfin, c'est pas un projet pris à la légère par nos clients, en tout cas.
Et on le voit dans votre petite analyse, selon l'Institut Opinionway, où 8 Français sur 10 estiment que leur lieu de vie a un impact majeur sur leur état de forme.
C'est essentiel, hein, c'est essentiel, bah, surtout dans les périodes que nous avons vécues. Et aujourd'hui, on voit encore le télétravail qui est présent, on va dire, important. Nos clients travaillent en moyenne 1 à 2 jours encore chez eux en télétravail. Et effectivement, rester chez soi de nombreuses heures impacte que l'on se sente bien chez soi. Ce qui veut dire aussi, on voit nos clients partent sur des projets de rénovation, partent sur des projets pour rester longtemps dans leur demeure, dans leur appartement ou leur maison. Et nos clients se doivent de se sentir bien. On est plus dans l'optique le logement ou immobilier dortoir. C'est vraiment l'immobilier plaisir et art de vivre.
Merci Cédric Julien, vous êtes cofondateur de l'immobilier sans vis-à-vis. Merci.
Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
ThyssenKrupp Elevator et maintenant TK Elevator. Entreprise majeure sur le marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques. Répartis sur toute la France, les techniciens expérimentés TK Elevator interviennent pour maintenir la mobilité des usagers en toute sécurité. Engagés dans le développement des bâtiments intelligents, TK Elevator propose des produits et services innovants comme le service de maintenance prédictive MAX. La mobilité urbaine ne connaît plus de limites. TK Elevator, Move Beyond. www.tkelevator.fr.
C'est sur bienici.com que Zoé a trouvé un joli studio à louer. À un quart d'heure de la fac.
C'est bien ici.
Confortablement meublé.
C'est bien ici.
Dans un quartier vivant et animé.
C'est bien ici.
C'est sur bienici.com que Zoé a eu son coup de cœur. Grâce à une recherche immobilière innovante par temps de trajet et vie de quartier. Bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement.
Le Mac de Limo continue en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
Les prix des logements anciens en France ont continué d'augmenter au troisième trimestre 2021. Ce sont les éléments issus de la Chambre des notaires établie avec l'INSEE. Alors, où est-ce que les prix montent ? Quelle surface ? Les réponses de Fabrice Coustet.
Où s'arrêtera la hausse ? L'indice établi en commun par les notaires et l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'INSEE, vient de tomber. Les prix des logements anciens ont continué leur progression au troisième trimestre de 2021. Ils ont augmenté de 7,4% sur un an. Dans le détail, la hausse des prix est plus marquée en région, où les prix ont grimpé de 8,8%. C'est particulièrement vrai pour les maisons, dont le prix a augmenté de 9,4% sur un an, contre 7,5% pour les appartements. En Île-de-France, la hausse est contenue à 4% sur un an par rapport au troisième trimestre de 2020 et à Paris, les prix restent stables. Une première pour la région depuis 2016, l'augmentation est bien plus marquée pour les maisons qui se vendent 7% plus cher qu'à la même période en 2020 contre 2,5% pour les appartements. Alors, pour les acquéreurs, voici les derniers chiffres. Pour acheter un bien ancien en Île-de-France, il faut désormais débourser en moyenne 6 840 € par mètre carré. À Paris, le prix est stable à 10 790 €, avec d'importants écarts entre les arrondissements, 9 250 € dans le 20e arrondissement et 14 540 € dans le 6e. Et les notaires estiment que la capitale reste à l'écart de la dynamique de hausse des prix, une tendance qui pourrait se prolonger d'ici à janvier 2022. En revanche, l'engouement pour la Grande Couronne s'est amplifié, notamment grâce à la pérennisation du télétravail. Thierry Delsalle, porte-parole de la Chambre des notaires de Paris et président de la Commission des statistiques immobilières, explique « Il y a un goût plus fort des franciliens pour les zones plus éloignées en Île-de-France, aussi parce que les maisons coûtent moins cher, mais c'est une situation inédite ». Enfin, nous sommes à nouveau sur une année de tous les records au niveau du nombre de transactions. En septembre 2021, l'INSEE estimait que 1,2 million de logements anciens avaient été vendus sur les 12 premiers mois, un chiffre en constante hausse depuis le quatrième trimestre de 2020. Les notaires du Grand Paris tablent sur un retour dans les prochains mois à des volumes de ventes encore très élevés, mais moins exceptionnels. Reste que les défis en matière de logement sont nombreux, dépasser le manque chronique de renouvellement de l'offre, pallier au déficit de construction et enfin, réussir à s'adapter aux exigences réglementaires environnementales du gouvernement.
Le Mac de l'Immo, en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
On va maintenant parler du club Frédéric Bastiat qui anime des débats sur la dette et l'inflation. Après la pandémie, la dette a beaucoup augmenté, évidemment. Alors comment revenir à un niveau de dette maîtrisé? Les réponses de Philippe Crevel, il est président du Cercle de l'épargne et il est au micro de Fabrice Coustet.
Club Frédéric Bastiat avec cette conférence aujourd'hui, la dette qui sera mise à la diète. On est en compagnie de Philippe Crevel. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors un vaste sujet, hein. C'est vrai que sur cette dette qui a explosé évidemment à cause de la pandémie. Alors on va pas résumer la conférence qui a duré près d'une heure, mais dans les grandes lignes, c'est vrai qu'il y a plusieurs sujets, cette dette exponentielle et puis les façons de la réduire. On parle de l'inflation, on parle d'effacer carrément cette dette. Je crois que par exemple l'effacement de la dette, vous n'y croyez pas trop.
L'effacement de la dette, c'est une banqueroute partielle. Et le problème avec une banqueroute, c'est pas de la faire, c'est le jour d'après. Et le jour d'après. Car en cas d'effacement, d'annulation des titres, même ceux qui sont détenus par les banques centrales, les autres investisseurs se diront qu'ils seront sur la liste de la prochaine banqueroute. Ils réclameront donc des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. Et les États qui auront encore besoin de s'endetter, car ils n'auront pas réglé leur problème de déficit par un coup de baguette magique, se retrouveront à payer beaucoup d'intérêts quand aujourd'hui, ils n'en paient pas. Ce qu'ils auront gagné au capital avec l'effacement, ils le perdront au niveau des intérêts. Et il faut savoir que pour les États, ce qui compte, ce n'est pas le capital, parce que ça roule, mais ce sont les intérêts qui sont dans le budget annuel de chacun d'entre eux.
Et justement, aujourd'hui, cette charge de la dette, elle est très faible, elle est même plus faible qu'il y a peut-être 10 ans ou 20 ans.
La dette en France a été multipliée par plus de 2 en 25 ans et le service de la dette, le paiement des intérêts, est plus faible. Aujourd'hui, il est 37 milliards d'euros quand il était de près de 50 milliards d'euros il y a encore une dizaine d'années.
Alors, autre système astucieux pour effacer cette dette, c'est laisser filer l'inflation. Est-ce qu'on peut le faire ?
L'inflation, ça ne se décrète pas. Ça arrive d'un coup, comme on la voit à l'heure actuelle. Elle surprend un peu tout le monde. Elle peut disparaître d'un coup également. Donc c'est difficile à maîtriser. Elle peut surtout s'emballer. Et c'est bien le problème. On peut avoir aujourd'hui 5-6% d'inflation et se retrouver avec 40 ou 50% d'inflation d'un coup. Donc c'est toujours quelque chose de difficile à manier. Après, il est vrai que l'inflation érode le montant du capital à rembourser. Et donc c'est quelque chose qui est un instrument puissant de réduction, on va dire en valeur faciale, du montant de la dette. Mais derrière, ça suppose également que les taux d'intérêt ne suivent pas l'inflation, parce que ce que je vais gagner toujours sur mon remboursement de capital, je risque de le payer très cher si les taux d'intérêt passent de 0% à 5, 6, 7, 8, 10, 12%. Donc il faudrait que les banques centrales compriment les taux d'intérêt. Et puis il faut quand même un moment ou un autre que l'inflation soit accompagnée de croissance, parce que si plus personne ne peut consommer parce que, justement, il n'y a pas de création de richesse, dans ces cas-là, on risque d'être dans la stagflation et surtout, on risque d'importants désordres sociaux.
Enfin, dernière voie, plus positive peut-être, le retour de la croissance avec cette transition énergétique écologique qui est en place. Est-ce que ça pourrait être une solution aussi ?
La dernière grande vague d'endettement date de la Seconde Guerre mondiale. On avait atteint des taux d'endettement assez comparables à ce qu'on connaît aujourd'hui. On a réussi à la surmonter, c'est vrai par de l'inflation, c'est vrai en faisant de la répression financière, c'est-à-dire en baissant les taux d'intérêt, mais aussi et surtout grâce à la croissance. Parce que la croissance, ça permet premièrement de rembourser. Deuxièmement, ça réduit le montant de la dette par rapport au PIB. Si mon PIB il augmente de 10%, ce que j'ai acquis dans le passé va valoir moins dans le PIB. Et donc évidemment qu'il faut de la croissance. On peut espérer que le digital va permettre des gains de productivité et que la transition énergétique, même si dans un premier temps ça va coûter, il ne faut pas se mentir, mais que ça devrait permettre dans un deuxième temps d'être plus efficient et de mieux utiliser les ressources naturelles que l'on a et donc de dégager plus de croissance. Et donc évidemment, c'est la bonne voie, c'est le bon chemin, avec également, il faut quand même l'avouer, une rigueur budgétaire un peu plus forte, une maîtrise des dépenses publiques, ça pourrait peut-être aider aussi.
C'est ce qu'on va se souhaiter. Merci Philippe Crevel. Je rappelle que vous êtes fondateur de la société d'études et stratégies économiques Lorello EcoData et dirigeant du Cercle de l'Épargne.
Le Mac de l'Immo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
Rien peut me ramener plus en arrière que l'odeur de la pâte à modeler. Maman est prof de maternelle, c'est même la maîtresse d'à côté. J'ai 5 ans et je passe par la fenêtre pour aller me planquer dans sa classe. Elle me dit t'es pas censé être là, j'ai dit près de toi c'est là ma place. J'aime que les livres, je préfère être seul, donc je suis plus content quand il pleut. Je fais quelques cours de catéchisme, mais je suis pas sûr de croire en Dieu. J'ai 7 ans, la vie est facile, quand je sais pas je demande à ma mère. Un jour elle m'a dit c'est pas tout, j'ai perdu foi en l'univers. À 5 ans je voulais juste en avoir 7. À 7 ans j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Je balaye les feuilles mortes sur le terrain. Le froid me fait des cloques sur les mains. J'ai 10 ans, je suis fan de basket. Je m'habille en petit américain. Mon père, mon héros m'a offert les Jordan 8 avec les scratchs. Donc je fais tout pour le rendre fier quand il vient me voir à tous les matchs. Je rentre au collège, on me traite de bourge. Normal, mes chaussures coûtent une blinde. Je veux plus les mettre, mon père s'énerve. Toi, toi, tout, nous, on avait rien. J'ai 12 ans, je fous le bordel en cours pour essayer de me faire des potes. Le prof de musique se fout en l'air, il est au paradis des profs. À 11 ans, je voulais juste en avoir 13. À 13 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Souvent, je suis tombé amoureux, mais pour une fois, c'est réciproque. J'abandonne lâchement tous mes potes. Je vois plus que ma meuf, on fume des clopes. 14 ans, je suis juste un fantôme. Du moins, c'est ce que disent mes parents. Chérie veut que je traîne plus qu'avec elle. Pourtant, elle me fait la gueule tout le temps. Vu que je déménage, ça nous sépare. Je me dis que l'amour, c'est surcoté. Mon frangin m'éclate au basket. Alors, je préfère abandonner. J'ai 15 ans, je regarde Kids en boucle. Je traîne avec des gars comme Casper. Mon père est sévère avec moi. Donc, je le répercute sur mon frère. À 15 ans, je voulais juste en avoir 16. À 16 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Je descends les marches, la peur au ventre, pour intercepter mon bulletin. À la maison, c'est la guerre froide, on se comprend plus donc je dis plus rien. J'ai 16 ans et je passe par la fenêtre pour rejoindre les autres au skatepark. On boit des bières, on fume des joints et je raconte tout ça dans mes raps. Les années passent, même un peu trop, au point que j'ose plus chanter mon âge. Mon frangin filme quand je mets la bague, ma frangine anime le mariage. Les choses que j'ose dire à personne sont les mêmes qui remplissent des salles. Maman est là, mon père est fier et l'univers est pas si mal. À 16 ans, je voulais juste avoir 17. 17 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. À 5 ans, je voulais juste en avoir 7. À 7 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête.
Orelsan avec son nouveau titre La Quête, extrait de son dernier album qui s'est vendu avant même à sa sortie à des millions d'exemplaires et qui a fait d'ailleurs disque de platine avant même d'être dans les bacs, et c'est à saluer.
Le Mac de Limo continue en partenariat avec Opinion de Système, promis et bien ici.
La période de trêve hivernale démarre au 1er novembre, s'achève au 31 mars de l'année suivante. Et tout le monde le sait, elle est déterminante puisque elle interdit toute expulsion locative. Sauf que il se pourrait que la législation change en la matière. On écoute une chronique de Fabrice Coustet.
Depuis le 1er novembre a débuté la trêve hivernale. Durant cette période, impossible d'expulser un locataire qui ne paye pas son loyer. L'ensemble des procédures est suspendu et ces procédures ne pourront reprendre au plus tôt qu'au 1er avril 2022. La trêve hivernale a été instaurée en France en 1956. Depuis, il y a chaque année une période de 5 mois où un propriétaire ne peut pas procéder à l'expulsion d'un locataire, même si celui-ci s'avère être mauvais payeur. Cette interdiction d'expulsion se justifie par le froid de la période hivernale. Mais attention, certaines personnes ne sont pas protégées par cette trêve. En premier lieu, les squatteurs. Trêve ou pas trêve, les forces de police ont le droit de les déloger, que ce soit pour une résidence principale ou secondaire. Ensuite, les personnes bénéficiant d'un relogement correspondant à leurs besoins familiaux. Problème, ils sont en droit de refuser ce relogement, surtout si celui-ci n'offre pas les conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille, ce qui est souvent le cas, surtout si les occupants habitent un domicile dans un logement confortable, comme dans ce cas très particulier d'une grande maison avec jardin et piscine, qu'ils n'ont donc pas intérêt à quitter. En effet, contrairement aux squatteurs qui peuvent être expulsés sur décision du préfet, les locataires ne le sont que sur ordre d'un juge, ce qui explique que les procédures sont souvent très longues, une double peine difficile à encaisser pour les propriétaires. Enfin, au sein des familles, il existe deux cas de figure, l'époux dont l'expulsion du domicile conjugal a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation d'une procédure de divorce, l'époux partenaire de PACS ou concubin. En deuxième lieu, l'époux, partenaire de PACS ou concubin, qui se montre violent dans le couple ou sur un enfant et dont l'expulsion du domicile familial a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans le cadre d'une ordonnance de protection. Lors de la trêve hivernale, les locataires sont donc protégés des expulsions, mais pas seulement. En effet, pendant cette période, ils sont également protégés des coupures d'énergie, au gaz, électricité, même en cas de facture impayée.
Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
Et puis on constate en ce moment un engouement pour les investissements en nue propriété. Cette nue propriété dont on parle quand même très souvent. Alors pourquoi, comment, les réponses d'Amaury de Calonne, interviewé par Fabienne.
Monsieur Amaury de Calonne, bonjour, vous êtes le fondateur et CEO de Monetivia, bonjour.
Bonjour.
Alors, il se trouve que vous me dites que l'engouement pour les investissements en nue propriété se confirme depuis la crise sanitaire, c'est ce que vous constatez ?
Alors effectivement, Monetivia, qui est une société qui est spécialisée dans l'achat et vente de nue propriété dans l'ancien, on a pu constater que, alors depuis 2-3 ans, depuis déjà quelques années, mais encore plus vrai depuis cette crise sanitaire, on constate un vrai engouement pour ce type d'opération.
Quels sont les facteurs qui expliquent ce phénomène d'après vous ?
Alors il y a une double raison, j'ai envie de dire. C'est-à-dire la première, elle vient des vendeurs qui eux sont propriétaires d'un actif immobilier qui représente en règle générale une grande partie de leur patrimoine et qui se disent cet actif il me rapporte rien puisque je l'habite. Il me coûte, parce que ça coûte cher d'être propriétaire, et aujourd'hui avoir un moyen de monétiser cet actif en vendant la nue propriété, ça va me permettre de répondre à un certain nombre d'objectifs, que ce soit des donations à des enfants immédiates ou un complément de revenu pour ne donner que ces exemples-là. Ça, c'est du côté des vendeurs, et vous avez de l'autre côté des acheteurs qui, eux, se disent « mais c'est un excellent moyen de pouvoir se constituer du patrimoine » pour la retraite, je suis un particulier, j'achète de l'immobilier, je mets ça en portefeuille et je disposerai de l'actif à ma retraite.
Et est-ce qu'il y a plusieurs formules quand même si on est intéressé pour les investissements en nue propriété, il n'y a pas une seule réponse standard ?
Non, il y a plusieurs moyens de faire ce type d'opération. Vous pouvez vendre la nue propriété de votre bien en conservant un usufruit à vie dans le bien. Mais vous pouvez aussi vendre la nue propriété de votre bien et conserver un usufruit temporaire. C'est-à-dire vous déterminez le nombre d'années que vous souhaitez garder, soit pour utiliser le bien, soit pour le mettre en location, par exemple. Et c'est cette durée qui fera le prix de vente de la nue propriété. Il est évident que si vous achetez un bien en nue propriété en laissant 10 ans ou 20 ans à votre vendeur, eh bien le prix que vous allez payer aujourd'hui ne sera pas le même.
Et est-ce que vous trouvez que globalement, les Français anticipent bien leur succession, l'avenir ?
Là, vous parlez plutôt du côté des vendeurs. Évidemment, on a plutôt tendance, quand on est jeune, à ne pas se voir, à pas se voir mourir. Donc évidemment, on s'intéresse à ces questions-là plutôt tardivement, je serais tenté de dire. Mais il y a quand même une prise de conscience parce que on sait, la génération par exemple des quadras, c'est très bien que les pensions de retraite sont très faibles, hein, les niveaux de retraite sont très faibles lorsqu'ils seront concernés. Et donc il faut évidemment préparer ça, anticiper ça, préparer sa retraite. Et pour ce qui est des vendeurs, la succession, on parlait de nue propriété, il y a une idée reçue aujourd'hui qui est que beaucoup pensent que lorsqu'on est propriétaire, nos enfants vont vouloir récupérer l'appartement, et donc on n'est pas enclin à vouloir le vendre, ou, en tout cas sous le format comme la nue propriété, ou à le monétiser. La réalité, c'est que plus de 80% dans les successions, des enfants vendent l'appartement des parents. Donc en tirer immédiatement un profit et en faire bénéficier ses enfants tout de suite, c'est une idée qui se développe de plus en plus dans la société.
Merci beaucoup Amaury de Calonne pour cet éclairage. Vous êtes fondateur et CEO de Monetivia. Merci.
Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion Système, promis et bien ici.
Le laboratoire de l'immobilier publie la 5e édition de son baromètre des prix de l'immobilier neuf sur plus de 100 villes de France métropolitaine. Son objectif, informer les particuliers sur les prix des logements neufs en cours de commercialisation et leurs évolutions. C'est très instructif et c'est Kenza qui nous l'explique.
Le 18 novembre dernier, le laboratoire de l'immobilier publie la 5e édition de son baromètre des prix de l'immobilier neuf sur plus de 100 000 villes de France métropolitaine. Son objectif, informer les particuliers sur les prix des logements neufs en cours de commercialisation et de leur évolution. Commençons d'abord par les volumes de permis autorisés qui sont de nouveau orientés à la hausse, mais il manque encore plus de 20 000 logements pour retrouver le niveau des autorisations mesurées avant le début de la pandémie. Du côté des prix, courant ce mois de novembre, le prix moyen d'un appartement neuf s'élève à 5 195 € du mètre carré dans les communes de plus de 45 000 habitants de France métropolitaine. Autant dire que l'accélération de la hausse des prix s'est fortement généralisée. 9 des 15 plus grosses communes ont connu une hausse des prix supérieure à 6%. Paris, Lyon et Nice sont pour l'instant les seules communes du top 15 dont le prix moyen dépasse les 6 000 € du mètre carré. En bas du tableau, le Havre continue de cumuler le prix le plus bas et augmentation la plus faible au sein du top 15. Un appartement neuf au Havre coûte toujours 3,5 fois moins cher qu'à Paris. Sachez que la situation reste donc aujourd'hui encore plus tendue et de nouvelles contraintes vont venir peser sur les prix dans les mois à venir.
Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion Système, promis et bien ici.
Et puis Opinionway publie une étude sur le logement, les Français et la santé. Et oui, car la santé a un impact sur le logement, comme nous l'expliquent Marie-Catherine Chazot et Frédéric Michaud au micro de Kenza Vriga.
Chez Cogedim, vous présentez une enquête donc inédite réalisée avec l'Institut Opinionway sur le rapport étroit qu'établissent les Français entre leur logement et leur santé, mais aussi sur les solutions à déployer pour favoriser une meilleure santé dans les logements de demain. Alors d'abord, est-ce qu'on a que des bonnes nouvelles ou pas que ? Alors, Frédéric.
Oui, je pense.
Oui, alors déjà, ce qu'il faut dire peut-être en préambule, c'est de bien souligner le fait que c'est une enquête assez inédite,
oui.
En réalité. Nous avons réalisé beaucoup d'enquêtes sur la santé, évidemment, en sortie de Covid, pendant la période du Covid, il y a eu beaucoup d'études réalisées sur la santé. Il y a énormément d'études aussi sur l'immobilier, vous êtes bien placé pour le
Tout
savoir.
Tout à fait.
Mais en revanche, une étude qui fait le lien entre la santé et le logement avec autant d'ambition. Exemple d'ambition, nous avons interrogé un échantillon de 2500 personnes. Généralement, quand on travaille auprès du grand public, on utilise des échantillons beaucoup plus faibles.
Tout à fait.
Le fameux échantillon national de 1000 personnes. Mmh. Là, un gros échantillon, c'est plus robuste, énormément de questions, avec vraiment cette ambition d'explorer l'intégralité du lien entre son logement et la santé. Mmh. Donc, voilà, d'abord, c'est quelque chose sans précédent, avec une très forte ambition. Ensuite, quand on regarde les résultats, ce qui vraiment est frappant, c'est le fait que la santé dans le logement, c'est un enjeu majeur pour les Français. Alors évidemment, le logement a un impact sur la santé pour 83% des Français. Le lien est fait. Le lien entre les deux est nettement établi par les Français. Évidemment, la prise de conscience a été accélérée par la crise du Covid.
C'est ce que j'allais vous demander. En gros, est-ce que depuis la crise sanitaire, les gens se posent plus de questions en rapport avec leur logement ou pas ?
C'est une évidence. On a passé plus de temps chez soi. On a été sensibilisés encore plus aux questions de santé. Mais je dirais que ça a été un accélérateur ou un révélateur de ce lien entre la santé et le logement. Et puis ce qui est intéressant aussi de noter, c'est qu'ils font le lien entre la qualité de son logement et la santé d'une manière générale, mais quand on entre un petit peu plus dans le détail de la santé, nous avons repris la définition officielle de l'OMS de la santé, qui décrit la santé comme un état de bien-être complet en ce qui concerne la santé physique
et mentale, c'est ce que j'allais vous dire.
La santé mentale,
mais évidemment.
Mais aussi la santé sociale.
Et sociale, puisque le lien a été rompu, évidemment. Tout
voilà,
à fait.
Et sur ces trois dimensions, le logement a un impact positif, donc tant pour la santé physique que pour la santé mentale. Et pour la santé sociale, le lien social, par exemple.
Juste avant de révéler certains chiffres avec vous, Frédéric, Marie-Catherine Chazot, à quoi vous servent vraiment les résultats d'une telle étude inédite ? Chez Cogedim, surtout.
Déjà, nous, ça fait un certain temps qu'on a anticipé le fait que la santé est importante pour les Français.
Vous êtes les pionniers, d'ailleurs, l'un des pionniers à vous intéresser à ce sujet.
C'est vrai que c'est pour nous un sujet primordial. Le bien-être, acheter un appartement, c'est tout et avant tout mieux se sentir chez soi. Et nous, le but de cette enquête, c'est de pouvoir trouver les solutions les plus appropriées pour concevoir nos logements et pour qu'ils soient le plus adaptés aux besoins et aux attentes de nos clients.
Depuis combien de temps, pardonnez-moi, vous travaillez chez Cogedim ?
Moi, ça va faire 20 ans que je travaille chez Cogedim. Oui. Sur ces sujets, ça fait à peu près... Alors, nous avons lancé 10 engagements en juillet dernier. Et ça fait un peu plus d'un an qu'on commence à réfléchir sur ces problématiques. Évidemment, le Covid et tout ce qui s'en est suivi a fait qu'accentuer cette thématique. Et fin juin, début juillet, nous avons lancé 10 engagements pour le bien-être, la santé et l'éco-responsabilité.
Alors vous qui travaillez, Marie-Catherine, sur ces questions essentielles, qui sont donc le rapport des Français à leur logement, quelles sont finalement les grandes révolutions ? C'est-à-dire que là, depuis que la Covid est terminée, on dit que les Français ont besoin d'un jardin, d'un espace vert, peut-être un balcon, d'avoir un petit peu plus d'espace chez eux. Est-ce que vous avez remarqué, depuis que vous travaillez sur ces questions, des révolutions majeures à nous révéler ?
Alors, bien sûr, l'espace extérieur est une... C'est même pas une révolution. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'obligatoire d'avoir un espace extérieur pour son appartement. Mais pas que. On voit dans l'enquête que la qualité de l'air est devenue un élément primordial. Quand on parle de qualité de l'air, on parle de ventilation de l'appartement, d'appartement biorienté, traversant. On parle de taille des fenêtres. Plus la fenêtre est grande et plus elle est facilement ouvrable. C'est pour ça que nous nous sommes engagés à mettre en œuvre des fenêtres oscillobattantes dans les chambres de nos appartements.
Très important, ça.
Faciliter la tâche à nos clients qui avaient peur de laisser leurs fenêtres ouvertes pour les intrusions ou pour le fait qu'elles claquent ou peu importe. Mais voilà, le fait de leur faciliter la tâche. Et après, la conception même du plan est importante quand on parle de qualité de l'air. Après, je vous parlerai aussi de qualité acoustique, de
primordial.
De tous ces sujets qui font que on vit son appartement avec moins de stress, avec un bien-être différent.
Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
Fleurs sont timidité.
le titre Respire encore de Clara Luciani.
Le Mac de Limo continue en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
Il semblerait qu'on se dirige vers une année record pour le marché européen de la logistique. C'est vrai qu'avec la pandémie, le commerce en ligne a été dopé, les messageries, les colis, et tout cela c'est bon pour la logistique, d'où des niveaux records. On écoute la chronique de Kenza.
Le marché immobilier européen de la logistique va connaître une année 2021 record. La société de conseil Knight Frank annonce chiffres à l'appui. Le Royaume-Uni est le pays le plus dynamique, suivi de l'Allemagne et des Pays-Bas. Les sommes investies sur le marché européen de l'immobilier industriel totalisent 38,3 milliards d'euros sur 9 mois, un niveau jamais atteint auparavant. Après un premier trimestre exceptionnel, l'activité n'a pas faibli au troisième trimestre avec 11,1 milliards d'euros investis, ce qui représente une hausse de 27% par rapport à la même période en 2020. Selon la société de conseil, il suffirait de moins de 8 milliards d'euros investis au quatrième trimestre pour faire de 2021 une nouvelle année record. Pour Knight Frank, c'est réalisable si l'on observe les opérations en cours de finalisation et les performances récentes du marché de la logistique. D'autre part, ce marché bénéficie d'un fort engouement des investisseurs avec la crise sanitaire qui a encore accentué et qui n'est pas près de s'essouffler. Le Royaume-Uni, avec 51 milliards d'euros investis au troisième trimestre, plus 120% par an, conforte sa position du plus grand marché européen devant l'Allemagne et les Pays-Bas. Parmi les transactions majeures récemment recensées outre-Manche, citons l'acquisition du portefeuille d'entrepôt d'Asda, géant de la grande distribution britannique, par Blackstone, pour un peu près de 2 milliards d'euros. Le marché français est également dynamique. 3,8 milliards d'euros ont été investis dans l'Hexagone lors des 9 premiers mois de 2021, soit une hausse de 46% sur un an. Le contexte est particulièrement propice à ce type d'opération qui permet aux acquéreurs de pallier le manque d'offres sécurisées et aux vendeurs de profiter de la hausse des valeurs vénales. La forte croissance du e-commerce constitue une autre raison ainsi que les besoins liés à la livraison du dernier kilomètre qui ne cesse d'alimenter l'appétit des investisseurs pour les zones les plus proches des agglomérations.
Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
Depuis quelques mois, c'est la ruée sur les biens en LMNP, alors étudiants ou seniors. À quoi correspond ce statut de loueur en meublé non professionnel? Comment choisir? Quel est le niveau de rentabilité? Et quels sont les pièges à éviter? Quels sont les impôts, les taxes, voire les règles pour défiscaliser? Nos auditeurs ont la parole et deux experts répondent à leurs questions sur le LMNP. Arnaud Groussac, il est président de Patrimoine Store, et Benjamin Falguérac, qui est responsable des partenariats à Le Revenu Pierre, une interview de Fabrice Coustet.
On est ravis d'accueillir sur ce plateau Arnaud Groussac. Bonjour Arnaud.
Bonjour Fabrice.
Président de Patrimoine Store, et Benjamin Falguérac. Bonjour Benjamin.
Bonjour à tous.
Le responsable des partenariats à Le Revenu Pierre. Alors on s'intéresse, chers amis, aujourd'hui à l'investissement en LMNP, étudiant ou senior. Comment on décrypte le marché? Comment bien investir? Quels sont les pièges à éviter? Autant de questions qu'on va vous poser. Première question, Arnaud, c'est pour vous, le LMNP, on en entend de plus en plus parler, le loué meublé non professionnel. À quoi ça correspond exactement? C'est une des premières questions.
Alors, c'est assez technique, mais pour le simplifier aux auditeurs, vous achetez dans une résidence gérée, donc loueur meublé non professionnel, un appartement avec des meubles qui va être géré par un gestionnaire qui est une société professionnelle qui va exploiter la résidence. Et grâce à ça, vous allez pouvoir amortir les murs que vous achetez et les meubles. Ces amortissements vont venir se déduire des loyers et donc vous créez des revenus nets d'impôts. Donc à l'heure de la grosse fiscalisation des revenus fonciers, c'est effectivement une source de diversification importante pour les investisseurs qui peuvent se créer des compléments de revenus nets d'impôts.
On est d'accord que, Arnaud, c'est un statut LMNP.
Exactement.
Je peux en faire de manière personnelle. Je pourrais très bien avoir un appartement et le louer de cette façon.
Exactement.
Mais ce dont on va parler aujourd'hui, c'est plutôt les LMNP étudiants ou seniors. Alors, quelle est justement la différence?
Alors, on va pouvoir en parler pendant l'émission, mais aujourd'hui, étudiant ou senior, ça va dépendre de la typologie de la résidence. Est-ce qu'elle est destinée à des étudiants ou est-ce qu'elle est destinée à des seniors? Donc, quand on parle de senior, c'est le 3-4e âge aujourd'hui, c'est-à-dire ce ne sont pas les EHPAD, hein, pas les médicalisés, ce sont vraiment les résidences pour personnes valides qui souhaitent ne plus être seules chez elles et qui veulent avoir une vie et retrouver une vie sociale dans ces résidences. Donc c'est de ces résidences-là.
Alors vie sociale, et on précise aussi un ensemble de services souvent.
Exactement.
Que ce soit pour les jeunes ou pour les anciens. Bah d'ailleurs ça se retrouve un peu, ça va être des parties communes plus équipées.
Exactement. Alors faut savoir que légalement le gestionnaire il a l'obligation de fournir des services à minima 3, mais globalement sur toutes ces résidences s'il y en a plus. Pour les étudiants, ça peut être l'accueil, le ménage, le petit déjeuner, le service de lingerie, par exemple, mm-hmm. pour les draps, etc. Et pour les personnes seniors, ça peut aller beaucoup plus loin avec un restaurant, avec du kiné, avec une piscine, avec voilà, tout un tas de services qui vont être mis à disposition des résidents et des locataires de ces résidences-là.
Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
En 50 ans, le pouvoir d'achat immobilier n'aura jamais été aussi haut, comme en témoigne le dernier baromètre de meilleurs agents. En quelques images, en quelques chiffres, vous allez tout comprendre. C'est une chronique de vous, Johanna.
Le Covid n'aura définitivement pas eu raison de l'immobilier, au point que le pouvoir d'achat immobilier des Français est aujourd'hui le plus haut de l'histoire de la Ve République. Plusieurs conclusions ressortent alors du nouveau baromètre signé Meilleurs Agents. Premièrement, les Français peuvent désormais acheter bien plus grand qu'avant avec des niveaux supérieurs à 60 mètres carrés. Deuxièmement, c'est la crise des subprimes de 2008 qui détient la palme de la crise ayant le plus impacté l'immobilier, entraînant un record particulièrement bas des transactions annuelles. Troisième constatation, ce sont les années 90 qui ont connu la plus grande euphorie immobilière, plus 23 mètres carrés du pouvoir d'achat immobilier sur l'ensemble du territoire. A contrario, et c'est le quatrième point, les années 80 ont été les moins favorables au pouvoir d'achat immobilier. En 1982, il atteint alors seulement 24 mètres carrés. De quoi se réjouir un peu de la décennie 2020.
Le Mac de l'Immo, la Startup Immo, en partenariat avec Bien Ici, Jean-Michel Royot.
Il est l'heure de retrouver Jean-Michel Royot, comme tous les vendredis, qui nous présente sa start-up de la semaine. Et aujourd'hui, il nous parle d'Arkea Flex, la nouvelle filiale du Crédit Mutuel Arkea, avec son directeur exécutif, Florent Lemaire.
Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour Start-up Immo en partenariat avec Bien Ici. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Florent Lemaire. Bonjour Florent.
Bonjour, bonjour à tous. Merci pour l'invitation.
Alors Florent, c'est le directeur exécutif de Arkea Flex. Alors Arkea Flex, c'est une start-up ?
C'est une start-up, oui, adossée à un grand groupe, le groupe Arkea, qui est bien connu, banque assureur, et qui a été lancé très récemment, puisque ça existe depuis le mois de juin, juste avant l'été.
Bon, bah super, donc c'était une start-up qui s'intéresse à l'immobilier. Là, vous êtes bien tombé, on va tâcher de bien échanger ensemble. Et la première question que je vais vous poser, Florence, c'est quelle est votre promesse ?
La promesse d'Arkea Flex, c'est de pouvoir concevoir des bâtiments, des logements, de telle sorte à ce qu'ils soient évolutifs. C'est-à-dire des bâtiments qui vont s'adapter au cycle de la vie des habitants.
Alors, des bâtiments qui vont s'adapter au cycle de la vie des habitants. Je ne vous cache pas qu'on a quand même envie d'en savoir plus. Alors, dans l'infinie gentillesse de Radio Immo, on va vous donner une minute. Mais juste une minute, hein,
pour en savoir plus
et pour bien comprendre comment ça marche Arkea Flex. Qu'est-ce que vous vendez, à qui vous le vendez, voilà, on veut tout savoir.
En une minute, pour faire simple, c'est une solution qui s'adresse aux bailleurs, aux promoteurs. Et la promesse, c'est de pouvoir concevoir des appartements, par exemple un T4, mais qui va pouvoir évoluer dans le temps. Dans le temps, ce T4 va pouvoir devenir un T5, devenir 2 T2, 4 T1. Ce sont des appartements qui vont s'adapter à la demande, au cycle de la vie des habitants.
Alors, ce que j'ai compris en lisant votre documentation, c'est que chacune des pièces, vous appelez ça des alvéoles, oui, est prévue pour être finalement autonome ou pouvoir être réunie avec d'autres.
C'est ça. Si on rentre un tout petit peu dans la technique, c'est concevoir le bâtiment de telle sorte à ce qu'il soit en plateau libre. Et ensuite, on va découper ce plateau libre en alvéoles. Les alvéoles, pour faire simple, c'est les pièces. Mmh. Donc, ça va pouvoir devenir soit un studio, si c'est un T1, soit le salon avec la cuisine, soit la chambre avec la salle de bain. Et on va pouvoir joindre ou disjoindre ces alvéoles entre elles très simplement grâce à un plancher technique qui permet de faire passer tous les fluides, les fils électriques, etc.
Donc ça, si je comprends bien, ça permet à un bailleur HLM de pouvoir adapter le logement à la taille de la famille. Donc logement qui au départ on avait deux adultes et deux enfants et où on va retrouver une personne âgée 30 ans après qui peut-être occupe un appartement un peu grand et un loyer un peu fort, on va pouvoir réduire ensuite la superficie de l'appartement, peut-être la pièce en trop, et réduire de fait son loyer, ça marche comme ça ?
Exactement. Et une personne seule qui occupe une grande surface, on va lui pouvoir lui proposer de transformer une chambre ou deux chambres inoccupées en des studios indépendants et donc pouvoir reproposer ses appartements à de nouvelles personnes.
Et baisser le loyer, parce que c'est souvent ces personnes âgées se retrouvent dans des situations contraintes en matière de revenus. Donc c'est effectivement très intéressant parce que les bailleurs sont souvent confrontés à ces choix avec les collectivités locales de bien maîtriser la programmation. Est-ce qu'on fait des T4, est-ce qu'on fait des T3, est-ce qu'on fait des T1, des T2? Donc là, grâce à votre solution, on a la possibilité finalement de faire évoluer cette programmation dans le temps et de s'adapter à la future école avec des étudiants qui peuvent s'installer et qui peuvent se substituer à des familles qui occuperaient aujourd'hui le logement.
C'est tout à fait ça. On a des bâtiments qui, de manière intrinsèque, peuvent s'adapter au marché, aux évolutions des demandes.
Ah, c'est très très intéressant.
Des familles ou des étudiants.
On sent que beaucoup de collectivités vont quelque part imposer ou en tout cas pousser. Qui vous fait confiance aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on a à peu près 500 logements à l'étude. On a des opérations, une opération à Tours qui pour lesquelles les travaux vont commencer très bientôt.
D'accord, donc on peut dire que la ville de Tours a validé ce principe d'évolutivité, de flexibilité.
Au Havre aussi, avec le promoteur Selling City, dans le sud-ouest, Bouygues. On a répondu à des appels d'offres avec Robert Alday.
Ouais, là, c'est le roi du Pays Basque, Robert Alday.
À Poitiers également. Donc on a pas mal d'opérations très intéressantes.
Aujourd'hui, on est au congrès des EPL. Je sais que vous avez aussi des sujets avec les EPL. Vous parlez de Poitiers.
Exactement, à Poitiers, une opération de grande envergure de 500 logements pour laquelle on a présenté la solution Arkéaflex et qui séduit évidemment par la possibilité de transformer les logements.
En préparant l'entretien, Florent, vous me disiez qu'il y a aussi des villes qui mettent ce type de solution dans leur cahier des charges. On parlait de Pessac, on parlait...
Exactement, on a pu voir dans les cahiers des charges Anglette. Des appels d'offres à Anglette et à Pessac que ce sujet de... construire des bâtiments qui s'adaptent au cycle de la vie des habitants, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé par les collectivités territoriales et par les mairies.
Très vertueuse, parce que ça évite de démolir, de reconstruire, de faire des dépenses excessives et tous les déchets qui vont avec.
Si on fait un parallèle très simple avec les biens de consommation courante, c'est construire un bâtiment qui est recyclable.
Très bien, c'est très intéressant. Comment on fait pour vous contacter demain ?
Eh ben, le plus simple, c'est d'aller me contacter directement sur LinkedIn, donc Florent Lemaire, directeur exécutif d'Arkéaflex. Vous pouvez aussi me contacter via notre site internet.
Parfait, écoutez, on va suivre votre actualité. On vous souhaite beaucoup de succès dans votre nouvelle entreprise, Florent. Une belle croissance pour Arkéaflex et puis à très vite sur Radio Immo. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Le Mac de l'Immo, en partenariat avec Opinion Système, promis et bien ici.
Et après la Startup Immo de Jean-Michel Royot, nous sommes de retour un petit peu avant 8h, comme c'est désormais la tradition, pour accueillir notre grand témoin du jour. Fabienne, je vous laisse nous le présenter.
Et oui, c'est pas n'importe qui. Christian Fabre, le directeur général de Keller Williams France, c'est tout simplement le premier groupe immobilier au monde. Pour cette fois où nous présentons l'émission à deux, il vous fallait au moins ça, hein, Johanna.
Il nous fallait au moins ça. Bonjour Christian Fabre.
Bonjour et merci pour votre invitation à toutes les deux.
Écoutez, on est ravis de vous accueillir. Alors, on vous a fait lever un petit peu tôt ce matin pour venir. Est-ce que c'est habituel ou est-ce que vous êtes un lève-tard ?
Non, je suis plutôt un lève-tôt. Donc, j'ai pris le temps de déjeuner, de faire mes premiers petits emails matinaux et de vous rejoindre. Merci beaucoup encore.
Bon, on vous a pas perturbé, c'est déjà ça. Vous connaissez le principe du Mac de l'Immo désormais. On va le rappeler pour les auditeurs qui l'auraient oublié. Petit sacripant, dis donc. On va faire le portrait. Pendant une heure d'un grand dirigeant de l'immobilier aujourd'hui, c'est donc, vous l'aurez compris, Christian Fabre. On va visiter un peu votre vie, faire le tour de votre parcours, savoir également comment vous en êtes arrivé à l'immobilier et puis comment vous voyez un peu les choses pour Keller Williams en France. On va également écouter des musiques que vous aimez et que vous avez choisi, ainsi que des témoignages de proches, de collaborateurs, de membres de votre famille également. Je dis pas tout, on va en garder un petit peu pour après. Et on va démarrer tout de suite avec votre premier choix musical. C'est We Are The World, c'est signé USA for Africa. Juste avant qu'on l'écoute, pourquoi ce choix ?
Écoutez, j'ai eu l'occasion dans ma vie de beaucoup voyager. y compris de travailler un petit peu sur les 5 continents, et ça m'a beaucoup appris. Voilà, il faudrait qu'on se rende tous compte que nous vivons tous, les 8 milliards de personnes que nous sommes, sur un petit caillou, et se respecter les uns les autres. Donc, Where's the World, pour moi, ça a beaucoup de sens. J'aime le monde entier.
Allez, We Are the World, on écoute. Ensuite, un petit flash info et on se retrouve juste après pour la deuxième partie du Mac de Limo.
There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We could go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we
de Limo, en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.